Ce jour-là, j'ai eu un immense choc, en fait. J'en ai eu un si grand que je n'en ai jamais parlé.
En fait, adolescente, je me sentais déplacée, comme un geste ou comme une parole peuvent être déplacées.
En famille, en amour, au travail, en société, trouve-t-on jamais tout à fait sa place ? Ce sentiment d'être en adéquation avec soi-même, de se rapprocher de la personne que l'on a l'ambition d'être. Une carrière pertinente qui nous rend heureux, un entourage qui nous aime pour ce que nous sommes, une vie qui nous ressemble ou tout du moins nous trahisse le moins possible. Parfois, ce sentiment de cohérence arrive vite, parfois plus tard, quelquefois jamais. Le plus souvent, il se déplace par vagues. Je suis Marion Ruggieri et dans le podcast Les Vagues, un tout nouveau podcast de Elle, j'interrogerai des personnalités sur le moment où elles se sont senties à leur place pour la première fois, mais aussi le moment où elles se sont senties déplacées. Je me rendrai chez elles ou dans un lieu cher à leurs yeux pour qu'elles me racontent ce jour fondateur où elles se sont dit « Là, je suis bien, je suis là où j'ai toujours voulu être et c'est moi ». Découvrez et écoutez Les Vagues à partir du 24 octobre sur toutes les plateformes de podcast. Bonne écoute.
Une nuit en librairie. Le podcast littéraire du magazine Elle. Une nuit en librairie par Olivia de Lamberterie. Une nuit en librairie, avec David Fuenquinos.
Bienvenue dans une librairie dont le nom aux trois syllabes claque comme un étendard, Gallimard. Un étendard de la littérature, bien sûr. C'est Gaston Gallimard lui-même qui crée cette librairie en 1919, boulevard Raspail, dans le 7e arrondissement, tout près de sa maison d'édition. Alors, vous avez maintenant l'habitude, la librairie a fermé, la nuit est tombée, nous voilà enfermés avec, et c'est une première, non pas une écrivaine, mais un écrivain. Après, quel casting ! Leïla Slimani, Sophie Fontanelle, Monica Sabolo, Isabelle Carré, j'ai le grand plaisir de passer la nuit avec un écrivain délicat, fantaisiste, mélancolique, funambule. C'est un auteur qui croit en la force du romanesque, dont on reconnaît le style dès les premières pages. Son nouveau roman, La famille Martin, publié tiens-tiens chez Gallimard.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Est une merveille d'inventivité et de fraîcheur. Et peut-être aussi le livre dans lequel, pour la première fois, ils font l'armure. Cet auteur est aussi un lecteur. Chic, 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 nous voici enfermés pour une nuit en librairie avec David Fuenquinos. Bienvenue David.
Bienvenue, bonsoir, pardon, je suis troublé par cette belle présentation et puis de faire partie de cette belle liste.
Mais oui, vous êtes mon premier homme en librairie.
Bah, je suis ravi, passer la nuit avec vous, c'est un grand plaisir.
Alors David, le principe est simple comme bonsoir. Nous allons nous promener parmi tous les rayons de cette librairie, qui n'en manque pas, et vous allez vous raconter au travers des livres qui vous ont nourri, apaisé, porté, inspiré et même peut-être sauvé.
Une nuit en librairie.
Pour commencer, nous allons parler avec la maîtresse des lieux. Merci de nous accueillir. Anne Ghisoli, vous êtes la directrice de la librairie.
Bonsoir, bonsoir et merci à vous. Enfin, moi, je suis heureuse de vous recevoir. Je suis heureuse de recevoir David.
Qu'est-ce qui vous plaît dans les romans de David Fuenquinos?
Bah, écoutez, après votre présentation, je vais être un petit peu ridicule, mais...
Sûrement pas.
Mais vous avez utilisé un mot que je voulais utiliser. Donc voilà, c'est le mot funambule et qui, je trouve, caractéristique notamment de la famille de Martin. Voilà, c'est un équilibriste. Voilà, il joue. J'aime bien sa fausse légèreté. C'est un lecteur, ça se sent quand on le lit. Et puis il aime les personnages, il aime les gens. Ça aussi, il y a beaucoup d'humanité et c'est cette générosité. Et comme vous l'avez dit, une teintée un peu de mélancolie qui donne voilà, toute cette profondeur, mais jamais, jamais appuyée. Et voilà.
Alors, bonne nuit, hein, merci.
Au revoir.
À demain.
Question piège à la libraire qui a lu pas tous les livres, mais beaucoup. On est à mi-chemin entre la rentrée littéraire et les prix. Votre Goncourt à vous, le Goncourt de votre cœur.
Difficile, difficile question et merci de me la poser, Olivia.
Ah ben, alors aussi que je vous ennuie un petit peu.
Non, mais c'est un peu le jeu. Alors il y a effectivement beaucoup, beaucoup de livres. J'en ai lu un certain nombre, évidemment pas tous. Certains m'ont beaucoup plu, d'autres m'ont, enfin, et certains m'ont étonnée. Mais j'ai vraiment, je trouve que le livre de Laurent Mauvignier, Histoire de la nuit aux éditions de Minuit, est remarquable. Remarquable bon, par sa construction, il nous happe par son style, par son écriture. C'est mentalement, enfin, c'est quand même très prenant. Je sais que beaucoup de mes collègues libraires, hein, j'ai vu leur blog ou leur post, l'ont beaucoup apprécié et certains ont dit « je n'ai pas pu le lâcher ». C'est vrai pour certains, moi j'ai dû le lâcher quand même pour respirer parce que c'est très prenant. Hein. Il y a des fois, c'est moralement et mentalement, c'est très fort, mais je trouve que c'est une vraie réussite. Je ne veux pas dire prouesse parce que c'est, voilà, c'est un roman, il y a de l'écriture, il y a tout. Il y a, voilà.
Le Goncourt pour Laurent Mauvignier, je suis d'accord avec vous. Merci beaucoup Anne de nous accueillir pour cette nuit. David, quand vous allez dans une librairie, vous êtes les mains dans les poches, vous arrivez avec une liste de livres que vous avez envie d'acheter. Quelle souris de librairie vous êtes ?
En général, j'y vais quand je ne sors pas de livres. Parce qu'au tout début de ma carrière, c'est vrai que j'allais dans les librairies, j'étais désespéré de voir que je trouvais mes livres nulle part. Donc c'est vrai que
c'est horrible.
J'évitais toujours les librairies. Quand je publiais un livre. Blague à part, en général, non, j'adore ne pas du tout savoir ce que je vais acheter. Je trouve que c'est le grand plaisir de la librairie, de flâner dans la librairie, de regarder les couvertures, les quatrièmes de couverture, de discuter avec le libraire. Je suis vraiment un acheteur qui adore être conseillé, qui aime bien lire les petits mots. Voilà, là, ici, dans la librairie Gallimard, il y a des petits mots. Ça, j'adore ça. Et je me laisse porter voilà, par l'intuition aussi, parfois, d'un titre, du nom d'un auteur. Je suis très excité par les noms d'auteurs.
Ah bah vous êtes excité par tous les noms de personnages, on va y revenir, c'est une chose que j'adore. Alors vous venez de publier La famille Martin, là vous pouvez vous promener dans toutes les librairies de France et de Navarre, il est partout. C'est une drôle d'histoire, l'histoire d'un écrivain en panne d'inspiration qui prend une décision saugrenue, il décide de descendre dans la rue et la première personne qu'il rencontrera, il racontera son histoire. Est-ce que c'est vrai ?
Alors, en grande partie, c'est vrai. C'est-à-dire que je me suis inspiré de personnes réelles, de choses que j'ai pu entendre. Vous savez, quand on est écrivain, les lecteurs viennent nous voir, nous parlent, nous racontent des histoires. Et très souvent, j'entends « mais vous devriez raconter ma vie ». Comme si on était une sorte de réceptacle. Et c'est vrai que tous les écrivains ont cette obsession de la curiosité. Donc, je prends beaucoup d'histoires depuis longtemps. Et donc, je les rends réelles à travers cette famille Martin. Et c'est vrai que beaucoup des thèmes que j'aime, se retrouve dans cette histoire. Pour répondre, parce que je n'ai pas encore répondu à votre
Est-ce
question,
que
mais on
Madeleine
a toute la
Tricot
nuit devant nous.
Existe
la,
vraiment.
Le point de départ est tout à fait réel. Je suis descendu dans la rue et j'ai arrêté la première personne que j'ai croisée. Il se trouve que c'était cette femme, Madeleine. Bon, j'avoue que j'ai changé le nom, mais que j'avais déjà croisée dans le quartier, que j'avais déjà voilà, aperçue. Et donc, j'ai discuté un petit peu avec elle, juste comme ça, par défi. Par excitation romanesque, au tout départ, je me suis dit c'est un amusement, ça va ne mener à rien. Et j'ai discuté un petit peu avec elle, et c'est le point de départ du livre.
Mais c'est dingue, imaginez, vous seriez tombé sur quelqu'un sans histoire.
Ah, mais alors justement, je parle beaucoup de ça. D'abord,
oui.
Je trouve que tout le monde a une histoire potentiellement intéressante. Et je m'amuse aussi, c'est un roman que j'ai voulu assez ludique, avec l'idée que je me pose toujours la question de savoir si mes personnages sont intéressants. Donc je les scrute et j'espère qu'ils vont me raconter des choses palpitantes et j'utilise quelques stratagèmes dans le livre pour essayer de rendre excitant.
On a l'impression que tout le monde a une histoire, sauf vous, parce que vous avez souvent dit que finalement vous n'aimiez pas écrire sur vous, que ça ne vous intéressait pas, que rien ne valait la vie des autres pour ne pas vivre la sienne. Est-ce qu'écrire est une fuite et une fuite dans laquelle vous vous trouveriez peut-être ?
C'est sûrement très juste, c'est sûrement la fuite la plus quotidienne qui m'appartient. Je ne sais pas si ça ne m'intéresse pas d'écrire sur moi. C'est, je suis porté vraiment par la fiction, par le désir de raconter des histoires. C'est très paradoxal. Parce que pour moi, l'écriture, c'est quelque chose d'un rapport très très fort à l'intimité, une sorte d'introspection permanente. Plus j'écris, plus je me sens névrosé, plus je me pose des questions sur moi, et en même temps, je ne parle jamais de moi. Et je me rends compte qu'à travers toutes les histoires que je raconte, tous les autres personnages, il y a des thématiques qui sont les miennes. Donc finalement, j'ai le sentiment que les auteurs, y compris ceux qui sont animés par la fiction, parlent aussi beaucoup d'eux.
On va en reparler, mais en attendant, est-ce que vous pourriez nous lire un petit extrait de La famille Martin pour nous mettre en bouche ?
Oui, avec plaisir. Je vais vérifier si... s'il n'y a pas de coquille. Le livre vient d'arriver.
Ah non,
ok, Gendard, je ne l'ai pas ouvert encore. Ça. Donc je vais lire le début. J'avais du mal à écrire. Je tournais en rond. Pendant des années, j'avais imaginé de nombreuses histoires, ne puisant que rarement dans la réalité. Je travaillais alors sur un roman autour des ateliers d'écriture. L'intrigue se déroulait lors d'un week-end consacré aux mots. Mais les mots, je ne les avais pas. Mes personnages m'intéressaient si peu, me procuraient un vertige d'ennui. J'ai pensé que n'importe quel récit réel aurait plus d'intérêt, n'importe quelle existence qui ne soit pas de la fiction. Fréquemment, lors de séances de dédicaces, des lecteurs venaient me voir pour me dire « Vous devriez raconter ma vie, elle est incroyable ». C'était sûrement vrai. Je pouvais descendre dans la rue, arrêter la première personne venue, lui demander de m'offrir quelques éléments biographiques, et j'étais à peu près certain que cela me motiverait davantage qu'une nouvelle invention. C'est ainsi que les choses ont commencé. Je me suis vraiment dit, tu descends dans la rue, tu abordes la première personne que tu vois, et elle sera le sujet de ton livre.
Vous savez qu'il y a plein de gens qui vont venir rôder autour de chez vous pour devenir les héros de votre prochain roman.
Oui, cela dit, j'avais dans une interview, je ne sais plus, j'avais dit que j'étais en manque d'inspiration. Et j'avais reçu après des centaines d'histoires sur Facebook, plein de messages. Voilà, un écrivain en recherche d'inspiration.
Oh, c'est drôle. Merci David Fuenquinos. Alors ce soir, c'est le 5e épisode de ce podcast. On a déjà pris des habitudes, comme celle de commencer toujours par les livres que notre invité lisait enfant. Sauf que cette nuit, rien ne va plus, pour la première fois. Et voilà qui va peut-être rassurer beaucoup de parents. Vous étiez un enfant qui ne lisait pas du tout. La preuve, on va écouter un invité surprise qui se souvient du petit garçon que vous étiez.
Bonsoir David. J'étais en train de me demander si tu avais lu des BD enfant, parce que je me rappelle de toi avec des livres, mais je ne te vois pas du tout avec des BD, celles avec lesquelles on grandit, les Tintins, les Astérix. Et je me demandais si tu avais vraiment lu ça ou peut-être que tu les lis avec tes enfants. Je sais que tu lis aujourd'hui beaucoup de romans graphiques, que certains de tes livres ont été adaptés aussi en BD. Mais est-ce que tu as lu des BD, enfant ?
Alors, vous avez reconnu.
C'est mon frère. Pour que mon frère me pose la question, c'est qu'il y a un doute. Mais non, il n'y avait pas de livres chez nous.
Pas ça, de livres du
c'est
tout.
Certain. Oui. Alors, c'est vrai que les livres pour enfants, c'est aussi beaucoup lié à l'éducation. Mais je suis désolé de répondre à ça comme ça, parce que c'est vrai
mais
que.
Non, mais c'est passionnant.
Mais j'ai aucun souvenir.
Pas de bibliothèque.
Les seuls
pas de
livres que j'ai
l'école.
Pu lire sont les livres d'école.
Ouais.
Voilà, après, à partir du collège, et je sais que j'avais beaucoup, beaucoup de mal à lire.
Alors, sous ma torture, et parce que vous êtes un garçon très bien
docile.
Élevé et docile, vous avez réussi à vous souvenir que peut-être Boulet Bill.
Ah oui, j'ai un souvenir d'un Boulet Bill, mais alors c'était le premier Boulet Bill qui n'était pas par petites histoires. Un
D'accord.
Boulet Bill complet, je ne sais plus, c'était un tour du monde. Et j'ai le souvenir d'avoir lu, voilà, je ne peux pas vraiment vous faire une analyse littéraire de Boulet Bill.
Quel dommage.
Mais j'ai le souvenir d'un Boulet Bill. Mais voilà, je n'avais pas un livre près de moi où j'attendais la sortie d'une série ou de quoi que ce soit.
Ce qui est formidable, c'est que vous êtes aujourd'hui père. Je pense que vous avez un grand garçon et une petite fille à
oui.
vue de nez.
Oui.
Est-ce que vous leur avez lu des histoires le soir hein ?
Alors non seulement j'ai lu beaucoup d'histoires, mais aussi pour mon plaisir personnel, j'ai découvert tout un monde extraordinaire avec les livres pour enfants, les livres jeunesse. Je racontais une histoire moi quand mon fils était petit, le petit garçon qui disait toujours non, et ça a été un grand plaisir après de pouvoir publier cette histoire. Après j'ai d'autres histoires en tête, mais je veux pas publier d'autres livres pour jeunesse parce que j'ai un grand respect pour les auteurs jeunesse.
Est devenu donc un livre pour tout le monde, illustré par Soledad. Ce petit garçon qui disait toujours non, je me suis demandé si c'était vous quand vous étiez petit.
Non, pas du tout, mais c'était une histoire que je racontais à mon fils et je trouvais que c'était un souvenir magnifique de pouvoir le publier. Et j'ai pris un goût à ce moment-là incroyable pour les lectures pour enfants. Ce sont les seuls livres finalement qu'on lit 100, 200 fois, 300 fois. Je trouve ça complètement fou d'imaginer que les enfants ne se lassent jamais d'une même histoire. Et il y a quelque chose d'assez tourbillonnesque, si j'ose dire. Je trouve que les enfants ont presque l'impression de lire l'histoire. Et c'est assez beau de sentir dans leur regard qu'ils pensent être en capacité de lire parce qu'ils connaissent par cœur l'histoire.
Oh,
et ça, je trouve ça bouleversant.
Moi, j'ai lu 200 fois à César, le petit garçon qui disait toujours non, sans vous détester. Et parfois, je me trompais et il me disait non, là, c'est pas du tout ça. Et je crois que vous avez lu 200 fois Poulpeau et Poulpette.
Ah oui, entre autres. Alors c'est vrai que j'ai eu la chance, quand j'ai écrit cette histoire pour enfants, d'être illustrée par Soledad. Et depuis, elle m'envoie tous ses livres, je les achète. Je suis totalement fan de son univers, de son dessin, que ce soit pour les adultes ou pour les enfants. Là, j'ai devant moi son dernier livre, je crois, le livre des petits bonheurs. Et c'est vrai que je trouve ça à la fois extrêmement ludique et en même temps, on se pose toujours des questions, on discute. Ma fille, par exemple, réfléchit après à quels sont ses petits bonheurs à elle. Donc j'aime bien les livres qui forment des ouvertures et qui donnent envie d'écrire soi-même d'autres livres dans sa tête. Et puis, ah oui, Poulpeau et Poulpette, ça, c'est sûr qu'ils font partie de la famille.
Vos derniers petits bonheurs, David Fuenquinos?
Les derniers petits bonheurs que j'ai pu avoir sont... Là, je suis en plein tournage en ce moment avec mon frère. Et je trouve que retrouver notre équipe, travailler avec mon frère, être avec des acteurs, de pouvoir voir comme ça des acteurs aussi... Je ne vais pas tous les citer parce qu'il y en a beaucoup dans mon film. Ça, c'est pour moi une chance inouïe.
Vous pouvez nous en citer quelques-uns quand même?
Non, mais il y a Jean-Paul Rouve, Karine Viard, Nicolas Bedeau, Céline Salette.
Waouh!
Monica Bellucci, Carole Bouquet, il y a beaucoup de Ramzy, plein de... Et vraiment, je trouve que ça, pour moi, c'est un plaisir d'enfant. Mon frère et moi, on était incroyablement cinéphiles, on aimait le cinéma. Et ça, c'est pas un petit bonheur, c'est un grand bonheur, mais d'avoir la chance de les voir jouer devant nous.
Et on peut savoir déjà le titre?
Ça s'appellera Les Fantasmes. C'est un film sur les fantasmes sexuels.
Tout un programme dont on reparlera tout à l'heure. Poulpeau et Poulpette, ça ne s'invente pas, ça ne s'oublie pas. Vous dites que le plus important pour un personnage, c'est son nom. Alors par exemple, Madeleine Tricot, comment est-ce que vous avez trouvé ce nom?
Alors c'est vrai que c'est un aptonyme, puisqu'elle a travaillé chez Chanel et elle me parle de Karl Lagerfeld, et c'est pour ça que j'en parle aussi dans le livre. Elle me raconte plein d'anecdotes sur lui. En tout cas, le nom, c'est très important. Pour moi, c'est 70% ou 80% d'un personnage. J'ai le sentiment qu'on est tous porteurs d'une énergie. Mm-hmm. Totalement lié à notre nom, à notre prénom, et qu'une Nathalie ne peut pas agir comme une Sabine. Et donc, pour comprendre un personnage, je cherche longtemps son prénom.
Et par exemple, un David, ça se comporte comment un David par rapport à un Stéphane?
Alors moi, j'aime pas du tout mon prénom.
Ah, pourquoi vous aimez pas votre prénom?
Mais plein de gens n'aiment pas leur
oui,
prénom.
C'est
difficile de savoir pourquoi. On se sent parfois pas tout à fait à l'aise avec son identité ou avec la façon de ce qui peut nous définir. Je trouve qu'un nom, un prénom, c'est vraiment comme le titre d'un roman. C'est ce qui est immédiat, c'est ce qu'on voit en premier. Donc parfois, on n'est pas tout à fait en adéquation avec ça.
Alors David Fuenquinos, vous grandissez et puis un jour, les livres entrent dans votre existence, pour ne plus jamais en ressortir d'ailleurs. On peut presque dire qu'ils vous ont sauvé la vie, puisqu'ils entrent à l'occasion d'une grave maladie qui vous cloue à l'hôpital à l'adolescence. Vous avez quel âge ?
Oui, 16 ans.
16 ans. Mmh. En même temps, vous avez 16 ans, mais dans la famille Martin, vous expliquez que c'est une maladie de vieux que vous avez et que donc à 16 ans, vous êtes déjà vieux.
C'est vrai que cette maladie que j'ai eue a posé beaucoup d'interrogations, a été une sorte de mystère. J'étais en service de cardiologie qu'avec des personnes âgées et j'avais dans ma vie parfois plusieurs étrangetés autour de ce que Flaubert appelait la sénescence. Mmh. J'avais c'est une histoire vraie, hein. Je peux prouver cette... J'avais reçu un courrier à 16 ou 17 ans de la SNCF me remerciant d'avoir souscrit la carte senior. Donc j'avais plein de choses étranges dans ma vie et j'ai eu cette maladie pour personnes âgées. Et donc ça reste toujours une maladie qui était inexplicable et dont j'ai surtout pas eu de conséquences parce que j'ai été très longtemps à l'hôpital, mais au tout départ on m'avait annoncé un cancer ou une tuberculose. Et c'est vrai que c'est comme tous les gens qui ont été gravement malades, ça a changé ma vie. Ça m'a rendu à la fois mystique et aussi, je dis ça d'une manière sinistre, mais j'allais dire aussi joyeux, dans un rapport joyeux à la vie.
Et comment les livres arrivent dans cette chambre d'hôpital ?
Tout simplement parce que nous étions en 1991.
Oui.
C'est une époque où il n'y avait pas de téléphone portable, pas d'internet. Peut-être qu'avec Facebook, je serais devenu dentiste. Hein. Je ne sais pas ce que je serais devenu.
Quelle tristesse !
Mais à ce moment-là, les livres m'ont accompagné physiquement. J'avais autour de mon lit deux piles de livres. Et j'ai commencé à lire, à me plonger dans la littérature. J'ai une amie qui m'a conseillé trois livres. Et c'est vrai que peut-être que le contexte s'y prêtait. Peut-être que la peur de la mort ou la fragilité physique a fait que j'ai développé une sensibilité. Pour la première fois, j'ai ouvert un livre, non pas en me focalisant sur l'histoire, mais en comprenant la sensibilité, le style. Peut-être que je suis arrivé à aimer la littérature en m'approchant... un peu plus près du style.
Alors, ce que je vous propose, David, c'est qu'on va aller se promener dans cette très belle librairie Gallimard à la recherche de livres qui ont changé votre vie et peut-être qui vous ont changé aussi. On n'est pas au bout de notre surprise parce qu'on va voir comment vous passez directement de Boulet Bill à des lectures bien plus étonnantes.
Ok.
23h37. La nuit en librairie, les livres de l'adolescence.
Alors David, on va partir à la recherche des livres en format de poche que vous découvrez adolescent. Si vous voulez vous arrêter... Les Américains, vous êtes...
Non, surtout Philip Roth, oui, les Américains. Philip Roth, c'est vraiment très important pour moi et... Je pense avoir lu tous ces livres. Puisqu'on est dans la librairie Gallimard, un jour j'ai voulu renégocier mon contrat avec Folio et puis ils n'ont pas voulu, bon c'était leur droit. Ouais. J'ai dit bon bah alors envoyez-moi tous les Philip Roth. Et j'ai eu un paquet de Philip Roth, négociation littéraire.
Pas mal, écoutez, voilà. Bonne négociation.
Hein. Je suis pas sûr. Hein.
On arrive dans la salle des livres en format de poche. Il y a des échelles, il y a des livres partout. Et là, David,
voilà, effectivement.
Expliquez-moi.
Oui, alors comment on est passé de Boulet Bill à Dostoïevski ?
J'aimerais savoir.
C'était
ça
la question.
Parce que je pense que beaucoup de parents vont être intéressés par votre réponse.
Alors, c'est vrai que Dostoïevski, je pense que c'est mon écrivain préféré. Donc on commence directement par l'essentiel. Et c'est vrai que je l'ai découvert à 16 ans et ça a changé ma vie. Ça a changé ma vie d'une manière physique. C'est la première fois que j'ai le sentiment de ressentir la force, la fièvre de Dostoïevski en le lisant. Et d'ailleurs, après, quelques temps après, je suis parti en Russie pour vivre physiquement l'expérience de lire Dostoïevski en Russie. Et j'ai essayé d'apprendre le russe, d'ailleurs. Ça a été assez pitoyable. La première leçon, j'ai appris à l'époque sur cassette. Et les cassettes, c'était... La première leçon, c'était... Kaki est un mousse, ça veut dire quel type de pont est-ce ? Donc c'était la seule phrase que je savais dire. Donc à Saint-Pétersbourg, je me promenais sur les ponts et je disais Kaki est un mousti.
Oh,
c'est tout ce que je pouvais
c'est
dire.
C'est le début d'un roman. Hein.
Quel type de pont est-ce ? Что это за мост ?
Alors, vous avez à ce moment-là découvert un autre livre totalement vertigineux. C'est Lolita de Nabokov.
C'est vrai que là, tout à l'heure, on parlait de l'expérience de la découverte du style. C'est vrai que quand on lit Lolita, Nabokov, après j'ai lu Ada Hollarder, que je trouve encore, qui m'a totalement fasciné, on est émerveillé par la langue, et évidemment, c'est une traduction. Mais je me souviens avoir lu et relu des pages sur la description, sur la sensualité, et sur l'obsession comme ça de cette sensualité. J'y ai pas du tout vu, alors peut-être que j'étais naïf ou à côté de la plaque à 16 ans, mais j'y ai pas du tout vu quelque chose de sulfureux.
Ah oui.
Donc c'est dire, oui, j'étais extrêmement... Oui, vous avez l'air inquiet, quoi.
Non, après, je suis jalouse hein, parce que je vois qu'à l'époque, vous découvrez Kundera et je sais que Kundera vous a envoyé des dessins, vous a téléphoné, vous racontez dans la famille Martin. Et là, je suis totalement jalouse de votre relation avec Kundera. Racontez-nous.
Ça a été... Kundera, je pense que c'est vraiment, bah, comme plein de gens, c'est vrai que l'insoutenable légèreté de l'être, ça a été un choc. Et puis, je pense que c'est comme une frontière. J'avais le sentiment de commencer à découvrir la littérature, d'aimer lire, de me sentir excité par des personnages. Il y a un rapport très simple à la narration, à ce qu'il raconte. Et en même temps, c'est tout le temps brillant, ça pousse à la réflexion. Il y a quelque chose de l'ordre de la contemplation de notre époque et du rapport à l'intelligence, au grand questionnement. Donc, je sais pas, il y a comme une sorte de simplicité intelligente qui, moi, à ce moment-là, m'a beaucoup, beaucoup marqué. Parce que je lisais, je relisais des passages. Et c'est vrai que ce qui est drôle, c'est que Dostoïevski, mon premier roman, est inspiré de L'Idiot. Mais surtout, dans mon premier roman, il y avait un faux Milan Kundera. Et c'est vrai que c'est une histoire un peu étonnante parce que j'ai envoyé ce roman par la poste. Il a été refusé partout. Et Jean-Marie Laclaftine, chez Gallimard, est tombé dessus. Je me suis retrouvé publié chez Gallimard. Et donc, Milan Kundera, qui était au comité de lecture, a eu connaissance de ce livre-là, où il était une sorte de faux personnage. Ouais. Et après, je l'ai croisé dans une librairie. Il m'a dit, c'est ma femme, Vera, qui est en train de lire le livre avec ses lunettes grotesques. Et donc, j'avais l'impression qu'on était dans un livre de Kundera.
C'est magnifique.
Et c'est vrai qu'après, quand La Délicatesse est sortie, il m'a envoyé un mot et je l'ai eu quelques fois au téléphone. Mais on devait déjeuner une fois, mais... Je crois que j'étais trop intimidée.
Une nuit en librairie.
David Fuenquinos, les livres vous sauvent lorsque vous êtes malade. Est-ce que les livres peuvent sauver de chagrin d'amour? C'est ce qu'on va voir et d'abord, on écoute.
Nous, on n'a pas de nul coup. Boubou, ça coule sur ta joue. On se quitte et il n'y a rien qu'on explique. C'est l'amour en fuite, l'amour en fuite.
Alors, Souchon d'abord. Je crois que vous ne pouvez pas vivre sans Alain Souchon.
Moi, j'ai une admiration infinie pour Souchon. Là, on écoute. Là. C'est toute la nonchalance, la mélancolie, la beauté, la sensualité. Le texte est sublime.
Mais pour moi, c'est vous. Je l'ai choisi celle-là, que j'adore, parce que pour moi, c'est aussi beaucoup la famille Martin. Parce que dans la famille Martin, il y a quand même un truc très nouveau. Le narrateur est un écrivain qui a un chagrin d'amour. Alors, c'est vous? C'est pas vous? On sent quand même qu'il y a des choses qui ont été vécues, ce n'est pas possible autrement.
Ça me fait plaisir que vous pensiez ça. Évidemment, quand on lit le livre, j'espère qu'on va croire en ce roman, en cette fiction. C'est un mélange de beaucoup de choses, mais sur cette partie-là, on est quand même plus dans la fiction. Je suis obligé de vous le dire parce que sinon, je vais avoir des soucis. Alors, Alain Souchon est majeur. C'est vrai que aussi dans cette chanson-là, L'amour en fuite, je l'avais mis entièrement dans La Délicatesse. Et c'est vrai que après, j'avais reçu un mot aussi d'Alain Souchon. C'était incroyable parce que on avait tout fait, mon frère et moi, pour qu'il joue dans notre film La Délicatesse.
Ouais.
Mais son agent nous avait dit à l'époque non, il fait plus de cinéma et s'il refuse ce rôle, c'est qu'il ne reviendra pas au cinéma. Ce qui est vrai, c'est un grand acteur aussi, Alain.
Ah, très
grand
acteur.
C'est vrai qu'on ne l'a pas revu après.
La rupture dans votre livre, elle est particulièrement terrible parce que la jeune fille qui quitte le narrateur, elle ne le quitte pas pour quelqu'un d'autre, elle le quitte parce qu'elle préfère être seule.
Oui, je trouvais que c'était une formulation qui était à la fois douce et douloureuse. Quelqu'un qui vous dit « je préfère la solitude à toi », ça peut paraître d'une violence et d'une déflagration. Et en même temps, il y a quelque chose de l'ordre de « je ne peux rien pour nous, je ne peux rien pour toi, je te quitte de cette manière en allant vers la solitude aussi, elle-même ». Et c'est vrai que, après, j'aimais bien l'idée que je me suis fait avoir un peu dans ce livre, puisque à partir du moment où j'interroge d'autres personnages, toute cette famille Martin... Il faut donner pour recevoir. Donc, elle me pose aussi des questions, notamment Valérie Martin, la femme au centre du livre. Mmh. Et elle m'interroge beaucoup, puisque moi, je suis en train d'écrire sur sa vie sentimentale. elle me demande où j'en suis. Et c'est vrai que je me mets du coup à parler de moi un petit peu malgré moi dans ce livre, par souci de transparence.
Vous fendez l'armure. Est-ce que les livres peuvent soigner des peines de cœur, hein?
Non.
Non.
Non, je crois pas.
Non.
Je pense que le livre peut être une sorte de, pour reprendre le titre d'une émission, un remède à la mélancolie. Mais je crois pas au chagrin. Non.
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 Qu'est-ce qui vous...
C'est une sorte d'homéopathie. Hein. Alors ouais. Qu'il faudrait quelque chose, il faudrait des antibios.
Et est-ce que, par exemple, quand vous êtes triste, vous écoutez des chansons tristes?
Moi, j'ai souvent une humeur inversée. C'est-à-dire que j'ai pu écrire des livres plus douloureux ou plus difficiles dans des moments plus légers. L'énergie ludique est parfois accompagnée de... Voilà. Pas de désespoir, mais de tranquillité.
Et qu'est-ce qui vous plairait? Qu'est-ce qui vous séduit chez une femme?
Je vais dire l'intelligence ou la répartie ou l'humour ou tout ce qui est de l'ordre. Évidemment,
l'esprit.
Je pourrais dire le physique, bien sûr. Mais plutôt la curiosité. La curiosité.
Et puis sûrement aussi ce qu'elle lit. Dans La Famille Martin, vous écrivez « À chaque fois que j'étais invitée chez quelqu'un, je regardais la bibliothèque. J'ai l'impression qu'on peut tout savoir d'une personne en observant les livres qu'elle possède. » Alors, pour tout savoir de vous, David Fuenquinos, on va maintenant s'intéresser à votre bibliothèque idéale.
Minuit 29. La nuit en librairie. Une bibliothèque idéale.
David Fuenquinos, d'abord, à quoi ressemble votre bibliothèque physiquement?
Au néant, au vide. C'est vraiment mon désespoir actuel, mais je vis dans un meublé et j'ai mis tous mes livres dans des cartons depuis plusieurs années.
Ouais.
Et c'est vrai qu'à chaque fois que j'ai envie de relire un livre, je le rachète. Donc j'ai plein de versions des livres que j'aime. C'est pas très intéressant, mais c'est mon rêve de... Voilà, d'avoir un grand bureau et de pouvoir trier mes livres. Je suis totalement obsédé par les bibliothèques. Et c'est vrai que j'ai vécu pendant 17 ans devant la bibliothèque François Mitterrand.
Oui.
Plus jeune, quand j'ai commencé à lire, je pouvais passer des heures à ranger les livres.
Alors par exemple, à côté de Romain Gary, qui on pourrait mettre? Parce que vous avez choisi La Promesse de l'Aube.
Oui, dans les livres qui sont majeurs, effectivement, Romain Gary, c'est le livre que je conseille d'ailleurs souvent quand je vais rencontrer les lycéens, parce que je trouve que c'est éblouissant littérairement. Et en même temps, c'est un livre sur l'espoir, c'est un livre sur l'inquiétude de ce qu'on va devenir, sur l'engagement qu'on a vis-à-vis de ses proches, notamment lui, sa mère. Et c'est un livre qui est romanesque. Moi, pour moi, c'est une qualification très importante dans ma vie que les choses soient romanesques. Et j'adore l'idée comme ça qu'il puisse mettre en scène sa propre vie pour ne pas décevoir sa mère. J'ai l'impression que d'une manière générale, j'adore les énergies qui forment des allers-retours permanents entre l'optimisme, le joyeux et puis une forme de chagrin ou de désespoir.
C'est presque vous. En tous les cas, tout ce que vous racontez.
Inconsciemment, je pense que tout le monde, finalement, d'une manière plus ou moins consciente, est attiré par ce qui nous touche. Souvent, d'ailleurs, les lecteurs me disent... D'ailleurs, je peux écrire n'importe quel livre, je peux écrire n'importe quelle histoire de psychopathe. Les gens vont me dire, c'est incroyable, vous avez écrit ma vie.
Ah, oui.
J'ai l'impression qu'on lit, ou en tout cas, on va vers les œuvres à travers le filtre ou le prisme de ce qui peut nous toucher. Et donc, c'est un vecteur étrange, d'ailleurs. Puisque tout le monde est touché par des choses différentes.
Bien sûr. Qu'est-ce qu'on trouve également?
J'aimerais bien parler de...
Dans votre bibliothèque idéale.
Ouais, d'Albert Cohen. Parce que Albert Cohen... D'ailleurs, on parle souvent de Belle du Seigneur comme le grand livre de l'amour. Et moi, ce sont mes premiers fous rires. On parle encore de l'humour. Je me souviens avoir pleuré de rire en lisant Belle du Seigneur. La description de la société des nations, de l'ambition extrêmement risible et absurde de tous les petits hommes qui sont en catégorie B pour passer en catégorie A. Il y a quelque chose qui est assez fascinant, voilà, de la médiocrité des humains en comparé de la grande aventure, de l'amour. Et ça a été pour moi peut-être mon premier grand choc stylistique. Parce que la richesse, la poésie, la langue de Cohen, ça a été très très important pour moi. Et c'est vrai que Belle du Seigneur, je trouve qu'il y a une expérience incroyable à faire avec ce livre. Avec tous les livres qu'on aime, finalement, c'est de le relire tous les 10 ans. Donc évidemment, je n'ai pas compris Paris à 20 ans, qu'à 30 ans, qu'à 40 ans. J'attends encore quelques années d'avoir 50 ans pour pouvoir le relire et d'avoir une nouvelle vision de ce livre.
Il y a d'autres livres que vous relisez ainsi tous les 10 ans?
L'autre est là, Un homme. Alors pas tous les 10 ans parce qu'il est moins moins vieux que Belle du Seigneur, mais c'est vrai que c'est un livre que j'ai lu trois fois.
Un homme de Philippe Roth.
Un homme de Philippe Roth, oui. Pour moi, c'est la quintessence de... Alors, je ne sais pas si on peut parler d'un roman parfait ou d'une forme de perfection, parce que même tout ce qui est imparfait demeure très excitant. Mais moi, je sais que quand j'écris, je vois des formes géométriques dans ma tête. C'est assez proche de la synesthésie. Et c'est vrai que pour moi, un homme, c'est le roman rond absolu. C'est-à-dire, en 150 pages, d'abord, il évoque des thèmes qui me touchent, comme la maladie, la vieillesse, le rapport à la sensualité, le rapport aux enfants, le rapport à ce qu'on laisse, le rapport à ce qui fait qu'une vie n'est faite que de quelques instants. Et en même temps, on a le sentiment qu'il y a un parfum d'éternité chaque jour. Et donc, pour moi, c'est le roman absolu. Et c'est vrai que Philippe Roth, dans les derniers livres, vraiment a atteint une sorte de maîtrise absolue du roman. Un peu comme, ce sont des choses très différentes, mais d'une certaine manière, Michel Butor. Ça aussi, j'avais eu la chance de rencontrer Michel Butor. Et je me suis dit, il doit tellement en avoir marre qu'un jeune écrivain lui pose des questions. Donc j'étais dans un bus avec lui, puis j'ai pas parlé. Puis au bout d'un moment, je me suis dit, peut-être qu'à 85 ans, j'aurais envie qu'un jeune écrivain me pose des questions, même si j'ai répété. Oui. Et je commençais à lui poser des questions, et en fait, il s'est illuminé, il m'a raconté plein de choses et je lui ai demandé ce qu'on a dû lui demander tellement de fois, pourquoi il avait arrêté d'écrire des romans, tout comme Bernard Franck par exemple. Bon, j'ai vraiment un esprit en escalier là.
Mais oui.
Michel
et
Butor, il a écrit 4 romans majeurs, comme évidemment la modification.
Bien sûr.
Et il a le sentiment d'avoir maîtrisé le roman. C'est
donc,
comme si l'art du roman, Philippe Roth aussi à 80 se dit j'arrête. Comme si c'était une entreprise, comme une performance sportive ou je ne sais pas, quelque chose qu'on peut atteindre. Et il y a quelque chose d'assez éblouissant dans ces grands écrivains qui, à un moment donné, sont arrivés sur la ligne finale de la création.
En même temps, Philippe Roth, il a aussi dit qu'il arrêtait parce que c'était trop difficile d'écrire.
Il aurait pu s'arrêter avant si c'était si difficile. Parce que c'est vrai que, oui, je pense que c'était une tyrannie. Tous les écrivains ressentent bien ça. Quand on rentre dans un roman, on est pieds et mains liés, on est foutu. On est foutu pour quelques mois. Et donc lui, un roman par an, il y a une telle œuvre, une telle densité, avec des chefs-d'œuvre pratiquement tout le temps. Effectivement, je comprends qu'il puisse arriver à un moment donné à un épuisement et qu'il ait envie de vivre ce qu'il a fait quelques années sans écrire.
Alors vous parliez de drôlerie. Moi, j'ai beaucoup ri. Dans La famille Martin, il y a beaucoup de drôleries et notamment il y a un joker, c'est donc Karl Lagerfeld. À chaque fois que vos personnages, qui vous mènent par le bout du nez dans ce livre, vous déçoivent un petit peu, vous avez peur que le lecteur s'ennuie, vous sortez votre joker, Karl Lagerfeld, on l'écoute.
Il n'y a rien dans la littérature actuelle qui vous plaise, dans la littérature contemporaine.
Houellebecq. Et j'aime beaucoup ses poèmes. Parce que c'est Houellebecq. Pour moi le seul poète moderne en français vieux et intéressant. Moi, je n'analyse pas trop. Je suis quelqu'un qui se laisse à l'impression.
Ouais.
Il a une façon de glorifier la médiocrité qui est assez géniale.
Vous êtes d'accord ? Glorifier.
Elle est incroyable cette formule, c'est exactement ça.
La médiocrité.
Oui, oui. Il fait une œuvre du rien.
Est-ce que Karl Lagerfeld est un bon personnage de roman, lui ?
Tout est romanesque chez lui, de son physique à son parcours, à son enfance. Et c'est vrai que je parle un peu de Lagerfeld, je m'amuse dans ce roman, La famille Martin, c'est vrai que c'est un roman que j'ai voulu plutôt ludique et qui s'amuse aussi avec l'idée que nous sommes soumis en permanence à la nécessité du divertissement. À la nécessité d'être intéressant, à la nécessité d'être un bon client quand on fait une émission, à la nécessité de la performance. Et donc, il y a quelque chose de l'ordre de l'évidence, c'est que parfois, on s'ennuie, parfois, il ne se passe rien. Et donc, je suis avec des personnages et je suis soumis à leur vérité et à leur lenteur par moment. Et donc, j'utilise des anecdotes de Lagerfeld pour pimenter ou pour accélérer mon récit. Voilà, donc je m'amuse un peu avec l'idée que voilà, il faut rendre le livre à tout prix attractif.
Souvent, les écrivains, lorsqu'on leur demande comment ils ont écrit leur livre, vous disent « Oh, mais tout d'un coup, les personnages se sont mis à faire ce qu'ils voulaient. » Sauf que pour vous, c'est vraiment ce qui se passe. Les personnages font ce qu'ils veulent, puisqu'ils sont issus de la rue et de la réalité.
Oui, paradoxalement, la réalité est parfois plus difficile à contrôler que la fiction. Souvent, c'est assez véhiculé, mais on entend dire « si j'avais écrit ça dans un roman ou si j'avais mis ça dans un film, personne n'aurait pu me croire. » Parce que le réel est improbable. Et donc, j'utilise aussi le gage de la vérité pour raconter des choses qui peut-être sous l'ordre de la fiction aurait été moins probable.
Et pour finir, votre bibliothèque idéale, un énorme pavé de...
Gombrowicz. Moi, d'une manière générale, je suis attiré par l'Est, par les auteurs allemands, de l'Allemagne à la Russie. Et Gombrowicz, à un moment donné, je l'ai beaucoup lu. Et puis, je me suis inquiété de cette lecture excessive. Parce qu'il y a certains écrivains, quand on écrit, qu'on ne doit absolument pas lire. Ce sont comme des plats impossibles à digérer. C'est-à-dire qu'ils modifient totalement votre écriture. Par exemple, dans Cosmos, il y a une scène inouïe où il parle d'un personnage en ne décrivant d'une femme qui s'appelle Léna, en ne décrivant que son oreille. Et le narrateur est obsédé par l'oreille d'une manière incessante et il ne voit d'elle que son oreille. Et je sais qu'après, moi, quand j'écrivais Entre les oreilles ou Le potentiel érotique de ma femme, je me suis dit, mince, c'est trop visible, là, je suis en train de pomper Gombrowicz, quoi. Mais ce qui est très marrant, c'est que quand j'ai publié mon premier livre chez Gallimard, c'était Philippe de Manet qui était au comité de lecture, m'avait dit « C'est incroyable comme on sent dans votre livre l'influence de Robert Walser. » Et j'avais dit « Ah oui, bien sûr, vous avez remarqué. » Alors que j'avais évidemment jamais lu Robert Walser. Et après, j'ai lu Robert Walser, que j'ai trouvé formidable, mais j'ai pas du tout vu le lien qu'il avait pu trouver avec mes livres. Donc ça, tous les écrivains vont vous raconter ça, que chacun voit à une porte d'entrée différente. La plupart des écrivains auxquels on m'a associé, je ne les ai pas vraiment lus, et c'était le cas aussi de Boris Vian, notamment pour mes premiers livres, alors que tous les écrivains qui m'ont vraiment influencé, on ne les repère pas. C'est dire à quel point j'ai travaillé l'arnaque d'une manière éblouissante, quoi.
Cher arnaqueur, on va maintenant aller voir les écrivains contemporains que vous aimez lire et qui sont parfois vos amis.
Les auteurs contemporains.
David Fuenquinos, vous êtes un homme de votre temps. Je dirais aussi que vous êtes un chic type. Vous avez beaucoup d'amis écrivains et ce n'est pas si fréquent dans ce métier solitaire. Vous lisez beaucoup les livres d'écrivains contemporains. Nous voilà donc devant ce rayon-là. Quels sont vos derniers coups de cœur de vos amis écrivains ?
Alors, tout d'abord, vous avez raison. C'est vrai que je publie depuis 20 ans presque. Et donc, j'ai croisé tellement d'écrivains. Ce sont mes collègues de bureau, d'une certaine manière.
Vos collègues
et
de librairie.
Du coup, je trouve qu'on se lit tous. Il y a une forme de curiosité, forcément. Et certains écrivains sont vraiment devenus des amis. Là, il y a effectivement le livre de Serge Joncourt, Amanda Sterz. Leila Slimani, c'est quelqu'un que j'aime profondément. Je suis à la fois très proche d'elle, mais en même temps, je suis émerveillé par elle, par son courage, par sa force de combat, par sa luminosité. Et donc, ce sont des écrivains aussi que je lis avec le regard forcément amical, mais j'aurais du mal à être ami avec quelqu'un que j'admire pas. Et là, il y a Fabrice Caro, ça c'est pas quelqu'un que je connais, mais je tourne autour de lui. C'est le livre que j'achète le plus depuis le discours, depuis un an.
Ah oui.
Je l'ai offert à tellement de personnes. Et c'est vrai que je suis extrêmement admiratif des gens qui me font rire. Et c'est vrai que là, c'est une pépite, le discours de drôlerie. Et en même temps, j'ai été vraiment impressionné que cet auteur dont j'aime les BD arrive comme ça à passer subitement dans la forme romanesque d'une manière aussi limpide. Et j'ai adoré ce livre.
Quelles sont les relations avec vos amis écrivains ? Vous vous lisez vos textes work in progress ? Ou vous allez boire des coups ?
Non, oui,
vous
bon,
allez
alors
au square avec les enfants
Alors oui, tout ça, les vacances, tout. Voilà, évidemment, il y a aussi... on ne peut pas citer tout le monde, mais il y a aussi Florence Zeller, il y en a plein. Mm-hmm. Karine Thuil, Amanda Sterz. Et c'est vrai qu'on parlait tout à l'heure de l'humour. J'ai trouvé son dernier livre très beau, L'aide d'amour sans
beau.
Le dire. Mm-hmm. Mais c'est quelqu'un qui m'amuse tellement, mm-hmm. qui a un humour incroyable. Serge, je le connais depuis 20 ans, Serge Joncourt. J'ai traversé la France avec lui, c'était mon compagnon de route. Mais oui, c'est quelqu'un qui m'impressionne. De toute façon, on est toujours attiré par les personnalités. Enfin, il n'y a pas deux personnes comme lui. Il y a quelque chose d'extrêmement étonnant dans sa personnalité, et je trouve qu'il est en train de créer une œuvre extrêmement particulière, ronde, et il tourne vraiment autour des mêmes thèmes, et quelque chose d'assez... assez organique, oui.
Un roman doit être rond, avez-vous écrit dans la famille Martin ? J'aime beaucoup.
Ah tiens, il y a Annie Ernaux aussi, là, que je vois. J'aime beaucoup Annie Ernaux. Qui juste, c'est pas une amie, mais je peux vous raconter une anecdote sur Annie Ernaux.
Ah bah bien sûr.
Qui est liée à un de mes romans. C'est que je me suis retrouvé à Manosque, et ça, je ne l'ai jamais raconté, mais j'étais dans une lecture à côté d'Annie Ernaux, puisqu'on était ensemble avec les auteurs Gallimard. Et donc, j'ai assisté à la lecture de son roman La Place par Emmanuel De Vos. Et c'était absolument bouleversant. Et c'est dans ce texte-là qu'à un moment donné, Emmanuel De Vos dit « la délicatesse ». C'est un mot qui a changé ma vie. Et c'était à côté d'Annie Ernaux que j'ai eu... en entendant le mot lors de cette lecture, je suis rentré après l'hôtel et j'ai commencé à écrire « la délicatesse ». Oh. Et je l'avais raconté à Annie, ça...
Ah oui, c'est beau. Oui. On va retourner... Là-bas, je vous ai gardé la meilleure amie pour la fin.
Ah.
Venez, je vais vous faire écouter quelque chose.
Une nuit en librairie.
Pour clore cette séquence, David, je vous propose d'écouter une écrivaine que j'adore, l'une de vos plus proches amies, et qui donne de vous un éclairage inattendu.
Alors moi, j'avais très envie d'évoquer un certain aspect de mon amitié avec David. C'est l'intérêt, l'attention que tu peux porter à tes amis auteurs femmes. Et je voudrais rappeler un moment qui a été important dans ma vie quand j'étais finaliste du Goncourt pour l'invention de nos vies en 2013. Et j'avais reçu beaucoup de violences sexistes, de remarques très dures. Et je me souviens de ton attitude, de tes mots, de ta présence. Et je n'ai pas du tout été étonnée quand après, tu as signé une tribune au moment de MeToo pour assurer aux femmes de l'édition ton soutien dans leur combat. C'est un moment important parce que je crois qu'ils sont rares, les écrivains, les hommes, qui ont ce rapport d'intérêt, d'égalité avec les femmes. Malheureusement, en France, souvent, le grand écrivain est un homme. Et je crois qu'avec David, le grand écrivain est aussi souvent une femme.
Alors, on a reconnu Karine Thuil.
Oui.
Est-ce que le milieu littéraire est misogyne, David ?
En tout cas, la violence, c'est incontestable et c'est majeur de voir tout ce qui se passe depuis plusieurs années. Et moi, j'ai une petite fille, je suis heureux que des choses se passent. Moi, je vois bien, j'entends même des hommes me dire « je vais changer d'attitude » ou « je vais faire attention », des choses qui leur paraissaient absolument... ça leur passait au-dessus de la tête avant. Et donc, on est dans un changement d'époque absolument majeur, nécessaire. Évidemment, j'ai pu soutenir comme j'ai pu ou signer des tribunes, mais comme tous les amis hommes que j'ai, ça nous paraît évident de s'engager dans ce combat aux côtés des femmes. Après, pour revenir à Karine, mon amitié n'était pas liée au fait qu'elle soit une écrivaine femme.
Pourquoi vous l'aimez, Karine ?
D'abord, c'est une amie très chère, je trouve extrêmement humaine, extrêmement attentive. C'est quelqu'un, c'est pas le cas de nombreuses personnes, qui est là quand vous allez mal, vraiment là. Et puis, au-delà de ça, puisqu'on est dans une émission littéraire, c'est un écrivain ou une écrivaine que j'admire profondément. Elle m'éblouit par sa force de progression. Je pense que ce sont des livres qui vont rester, qui sont majeurs. Je ne dis pas ça de beaucoup de livres. Et je suis toujours en attente de ce que va faire Karine. Et c'est vrai que c'est quelqu'un qui vit intensément la littérature, qui est traversé par beaucoup d'angoisse par moment. Et avec les écrivains aussi, on a un rapport d'amitié qui est forcément particulier. Je ne peux pas avoir ce même rapport avec mes amis d'enfance ou mes amis de lycée, que j'aime tout autant, mais là, on partage les mêmes choses. Donc, je trouve que c'est important de pouvoir s'épauler et aussi partager les bons moments et les joies. Là, j'étais tellement content qu'elle ait le prix Goncourt des lycéens pour son dernier livre. Je l'espérais pour elle.
Un livre très, très intéressant qui interroge la notion de consentement. Un très beau livre. Une chose qui m'a toujours beaucoup frappée, que j'admire beaucoup chez vous, c'est la manière dont vous vous glissez dans la peau de femme. Presque plus que de personnages d'hommes.
C'est vrai que...
Si je compte, je suis sûre que vous avez plus d'héroïnes que de héros.
Je pense que c'est assez équivalent, mais c'est vrai que ce qui demeure marquant, que ce soit La Délicatesse ou Charlotte, ce sont des livres vraiment féminins avec des héroïnes.
Et Madeleine.
Évidemment, mais j'ai tout autant d'excitation, moi, d'intérêt aussi à à parler de personnages masculins, comme c'était le cas pour le mystère Henri Pic, par exemple, ou dans mon dernier roman, il y a tout autant des problématiques liées à des hommes. Enfin, un écrivain va dans tous les personnages. Pour moi, j'ai reçu tellement de lettres après La Délicatesse sur la sensibilité féminine, et c'est vrai que j'avais le sentiment que j'avais mis beaucoup de moi dans ce personnage de Nathalie, mais j'avais mis aussi beaucoup de moi dans le personnage du Suédois dépressif, qui après a été joué par François Damiens au cinéma. J'ai l'impression qu'un écrivain est dans tous les personnages. Et c'est peut-être parfois même plus difficile d'être dans la peau d'un Suédois dépressif que d'une femme.
Alors pour clore cette séquence, on va parler non pas d'un ami, mais d'un modèle. Je crois que c'est quelqu'un qui a beaucoup compté pour vous. On l'écoute.
Allô, Ida.
Salut Antoine.
Bonjour, c'est Antoine, là, sur l'affaire Cendrillon. Ah, j'ai fait la connaissance de Madame Tabar. Elle a une voix enchanteresse et parle l'anglais avec une pureté admirable.
Donnez-moi son signalement.
C'est une femme superbe, avec un air très vague et très doux. Le nez est un peu relevé, mais droit et spirituel.
Sa taille?
Ah là, la taille est lancée.
Non, je vous demande combien elle mesure.
Oh, 1m66, sans talon.
La forme du visage?
C'est un ovale très pur. Enfin... un ovale un peu triangulaire, mais le teint est lumineux et comme éclairé de l'intérieur.
Écoutez Antoine, ce qu'on vous demande, c'est un rapport, pas une déclaration d'amour. Bonne nuit.
J'adore cet extrait.
Il est génial,
ah,
hein.
Il est génial.
Madame Bovary, c'est lui. Jean-Pierre Léo, c'est vous. Mais plus exactement, Antoine Doinel.
Oui, c'est vrai que ça a été très, très... Bon, là, on parle de littérature. Pour moi, c'est pareil. Truffaut, pour moi, c'est le cinéaste le plus littéraire. Et d'ailleurs, on pouvait écouter le film, là, hein, vraiment comme si on était dans un livre audio. Et puis, il y a tellement de références, la narration, l'utilisation de la voix off. Et c'est vrai que je me suis beaucoup identifié, peut-être après beaucoup de râteaux, hein, je ne sais pas, des années difficiles à Antoine Doinel et à son rapport comme ça un peu émerveillé à la féminité.
Vous voyez, on revient aux peines de cœur. Je suis sûre qu'il y a des peines de cœur véridiques dans la famille
Martin. Non, mais moi, je me suis forcément identifié. D'ailleurs, oui. À un point que je voulais être veilleur de nuit dans un hôtel pour faire comme Antoine Doinel. Et c'est vrai qu'il y a un livre où je me suis comme ça beaucoup inspiré d'Antoine Doinel, c'est Les Souvenirs, où le personnage était veilleur de nuit dans un hôtel. Truffaut, vraiment, j'en parle beaucoup effectivement dans mes romans, c'est toujours présent. Là, dans le dernier livre, dans La Famille Martin, il y a la citation extrêmement connue du dernier métro
et de la
sirène du Mississippi qui évoque le questionnement de l'amour, à savoir si c'est une souffrance ou une joie.
Et c'est évidemment les deux.
Les deux.
Vous êtes aussi metteur en scène. Vous nous disiez tout à l'heure que vous êtes en train de tourner votre troisième film avec votre frère Stéphane. Je sais que vous avez failli adapter Françoise Sagan. Ça aurait été génial. Pourquoi ça ne s'est pas fait?
Ah, ça, c'est une histoire... c'était complètement fou. C'était incroyable. Après La Délicatesse, il y avait une productrice qui avait acheté les droits du texte, du manuscrit inachevé de Françoise Sagan, les Quatre Coins du Cœur, qui a été publié l'année dernière.
Ouais.
Mais pendant des années, Denis, le fils de Françoise, ne voulait pas publier ce texte et voulait en faire d'abord une adaptation. Donc, on a été contactés et je me suis retrouvé, moi, avec le manuscrit. C'était incroyablement bouleversant parce que c'était le dernier texte de Françoise Sagan, annoté par Françoise Sagan.
Oh là là.
Et donc, j'ai écrit l'adaptation. Et ça a été. Donc, c'est un texte que je connais par cœur, puisque j'ai passé beaucoup de temps sur cette adaptation. Et là, on avait un casting formidable. On avait Daniel Auteuil à l'époque, Carole Bouquet, Philippe Catherine, Mathilde Seigné, Laurent Lafitte, plein de gens.
Ouais.
Et puis, le film coûtait un peu cher. Ça se passait dans les années 70. On n'a pas eu le financement, tout simplement. Et donc, le projet s'est arrêté. Et quelques années plus tard, j'ai vu que le livre a été publié, mais je n'ai pas lu la version publiée.
Pour terminer, on va donner des idées de cadeaux à nos auditeurs. 3 idées de dernière minute à courir acheter dans sa librairie préférée. Le livre qui vous a fait le plus rire, David.
Alors là, c'est un de mes livres qui m'a vraiment fait rire, c'est La Salle de bain de Jean-Philippe Toussaint, qui a été une très grande influence, surtout sur ses premiers livres et l'humour. Il y avait une scène, par exemple, dans la télévision, où le narrateur, qui est censé aller mettre de l'eau dans les fleurs de sa voisine qui est partie en vacances, à un moment donné, il croise dans l'escalier deux chauves avec une télévision. Et bon, bref, je ne me rappelle plus de l'anecdote. Je te passe ça.
Mais c'est très drôle. Jean-Philippe Toussaint.
La salle de bain.
C'est vraiment génial. Le livre qui vous a fait le plus pleurer. Ça fait du bien de pleurer aussi pour d'autres tracas que ceux de l'époque.
Moi, j'adore pleurer. J'adore pleurer même au cinéma. Il y a un film qui m'a beaucoup fait pleurer. C'est Eternal Sunshine of the Spotless Mind. Par émotion, qui m'a... tellement bouleversé. C'est un film que j'ai vu tellement de fois. Et là, puisque vous m'avez demandé, j'ai eu le souvenir. Alors, je ne l'ai pas relu depuis mes 15-16 ans. C'est Jeannère de Charlotte Brontë. Et je ne veux pas spoilier, mais à un moment donné... Bon, bref, je ne vous raconte pas. Mais je me souviens avoir été bouleversé par ce qui se passait.
Et pour finir, un livre que vous aimez et que peu de gens connaissent.
Oui, c'est vrai que c'est Oblomov, de l'écrivain russe Gontcharov.
C'est pas
l'écrivain russe le plus connu, mais ce livre est assez culte et par son personnage principal, d'ailleurs c'est devenu même une sorte d'adjectif, de faire son Oblomov. Faire son Oblomov, c'est une sorte de procrastination à l'extrême, tout repousser au lendemain, au surlendemain, à jamais. Il passe sa vie, d'ailleurs on voit bien sur la couverture du folio, avachi sur son canapé. Et c'est un livre que j'ai vraiment aimé, et d'ailleurs... Je le fais lire, en accord avec mon frère, par nos deux héroïnes de nos deux films, c'est-à-dire que Audrey Tautou le lit dans La Délicatesse,
oui.
Et Karine Viard le lit dans Jalouse. Ça se voit pas, c'est furtif, mais voilà, c'est le même livre.
Ultime question. Vous posez une question que j'adore dans La Famille Martin. Est-ce qu'il existe une vie après les pages ? Et vous vous demandez si les héros de La Délicatesse sont toujours ensemble. Alors moi, je vous pose la question. Est-ce que Nathalie et Marcus sont heureux et est-ce qu'ils ont eu beaucoup d'enfants, David Fuenquinos ?
Oui, c'est vrai que je me suis posé la question. Et c'est vrai que parfois, quand on lit des romans, on a envie de savoir la suite. On a envie de connaître. C'est marrant, aujourd'hui, j'ai regardé un documentaire sur J.K. Rowling.
Mm-hmm.
Et elle racontait qu'elle connaissait toute la suite des personnages après le 7e tome d'Harry Potter. Elle avait un arbre généalogique. Je trouve ça très drôle que l'auteur puisse être le seul finalement à avoir une sorte de vie. Les lecteurs décident en général de la suite.
Mm-hmm.
Mais c'est vrai que dans La Famille Martin, j'évoque la suite de La Délicatesse, de ce qui se serait passé entre Nathalie et Marcus. Et évidemment, ils sont encore ensemble.
Ah, ouf.
Une nuit en librairie.
Merci à la librairie Gallimard de nous avoir accueillis. Merci à vous, David Fuenquinos, pour votre gentillesse, votre délicatesse, votre confiance. C'était une joie de partager ces plaisirs de lecture avec vous. Je rappelle le titre de votre dernier roman, La famille Martin, chez Gallimard. C'est un roman singulier, c'est un roman exquis. C'était Une nuit en librairie avec David Fuenquinos.
Merci.
Une nuit en librairie. Toutes les nuits en librairie sont en podcast sur les plateformes de streaming.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.